Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Un peu plus de 17h, on vous accompagne en direct jusqu'à 18h bien sûr, et jusqu'à la clôture, nos experts du club vont débriefer cette séance, vous apporter leur analyse, nous livrer leurs prévisions sur les marchés pour la suite. Ils vont nous rejoindre dans un instant. Le CAC 40 en ce moment progresse de 0,3%, 6685 points, plus forte hausse. Les valeurs énergétiques, les valeurs minières, les valeurs matières premières, ArcelorMittal gagne plus de 3%, Total Energy, grâce à la hausse des cours du pétrole, Total Energy aussi progresse de 2,5%, puis hors CAC, du côté des hausses Eramet, on est à nouveau dans le secteur minier. Gagne plus de 3%. On va donc y revenir. On vous apportera aussi des idées de valeur si vous souhaitez compléter vos portefeuilles pour cette fin d'année. Et puis n'oubliez pas notre nouveau rendez-vous également désormais après 18h sur nos différentes plateformes. Le débrief de la séance. Amaury de Tonquédec reçoit l'expert du jour pour le but par but de cette séance et surtout vous apporter un temps d'avance pour la suite si vous souhaitez investir, si vous souhaitez aussi interagir. N'hésitez pas à envoyer vos questions et donc l'expert du débrief vous répondra sur ce débrief à suivre en live stream tout à l'heure sur notre plateforme BFM Bourse, le fil Twitter et Facebook de BFM Bourse. Et puis si vous nous suivez à travers les fils BFM Business, vous pourrez suivre en direct ce live stream tout à l'heure sur notre chaîne YouTube BFM Business ou encore notre fil LinkedIn. Envoyez vos questions en direct tout à l'heure, vos commentaires. L'idée est de créer un maximum d'interactions entre vous et les experts de marché pour vous aider à arbitrer au mieux vos portefeuilles. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par mail à l'adresse mail suivante bfmbourse@bfmbusiness.fr. Rendez-vous donc tout à l'heure après 18h sur nos différentes plateformes pour ce tout nouveau rendez-vous. Tout de suite, Faiza Younsi nous rejoint également. On va parcourir avec elle l'ensemble de l'actu du jour en direct en démarrant par le chiffre qui aura marqué cet après-midi boursière. C'est le chiffre de l'inflation en Allemagne. C'est parti.
BFM Business, l'info éco.
À la une, ce ralentissement surprise de l'inflation en Allemagne, 10% sur un an en novembre, en recul de 0,4% par rapport au mois précédent. Un chiffre qui a donc déjoué les pronostics des analystes. Ce recul est dû au ralentissement de la flambée des prix de l'énergie. En revanche, ceux de l'alimentation continuent d'accélérer. La BCE va-t-elle plonger dans le rouge? En tout cas, elle n'exclut pas cette possibilité aujourd'hui. La Banque Centrale Européenne pourrait être plombée par le poids des intérêts qu'elle verse désormais aux banques commerciales. EDF renflouée auprès de 6 banques. L'énergéticien a conclu des financements supplémentaires à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Il est en grande difficulté financière, notamment à cause de problèmes de production de ses centrales nucléaires. Dans l'affaire MSC, on en sait un peu plus sur la mise en examen d'Alexis Kohler. D'après l'AFP, les juges reprochent au secrétaire général de l'Élysée d'avoir participé à plusieurs décisions relatives à l'armateur et d'avoir persisté à donner des orientations sur ces dossiers malgré ses liens familiaux avec le groupe. Le bras droit d'Emmanuel Macron conteste tout conflit d'intérêts. HSBC cède ses activités au Canada pour 10 milliards de dollars à Royal Bank of Canada. Conséquence de la pression de son principal actionnaire, l'assureur chinois Ping An, qui souhaite que la banque se focalise sur l'Asie. EasyJet encore dans le rouge. La compagnie low cost enregistre sa troisième perte annuelle d'affilée, moins 206 millions d'euros sur son exercice 2021-2022, plombé notamment par les pénuries de personnel qui l'ont amené à annuler de très nombreux vols. Malgré tout, l'activité de cet hiver s'annonce prometteuse. EasyJet espère consolider le rebond record de cet été. Et puis la filière bio tire la sonnette d'alarme. Ses représentants accusent aujourd'hui plusieurs enseignes de distribution de se désengager de ce marché au risque de mettre en péril les fermes et les entreprises du secteur. Sur le premier semestre, les ventes du bio ont chuté de plus de 6%. Et ce soir, on a une invitée exceptionnelle sur BFM Business. Il s'agit de Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Elle sera dans la grande interview d'Edwige Chevrillon. Rendez-vous à ne pas manquer à 19h30.
BFM Business. BFM Bourse. Le club.
Merci Faiza, vous nous accompagnez d'ici là, bien sûr, tout au long de cette fin de journée pour parcourir l'actu du jour en direct. Les marchés sont à nouveau en hausse aujourd'hui après la pause d'hier. 0,2%, la hausse actuelle du CAC, petite hausse, 6681 points. On va parler du potentiel des marchés, de l'avenir boursier avec nos deux coéquipiers du club. Ils viennent de nous rejoindre. Wilfried Galland, bonsoir Wilfried.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, directeur et stratégiste de Montpensier Finance. Vincent Lequartier également nous rejoint. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Guillaume.
Et bienvenue aussi, responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. En ce moment, sur les marchés, c'est un peu envole-moi, envole. C'est ça, non ? Huit semaines de hausse d'affilée, quand même. Et ça continue.
Oui.
Jusqu'où ? Jusqu'où, Wilfried ?
Ben, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce rebond qui, effectivement, est très spectaculaire. On l'a fait parce que on a eu un changement d'ambiance clairement sur l'environnement monétaire, sur les perspectives monétaires. Et c'était, pour le dire en deux mots, le fait que les marchés se sont dit tout ce qui est aujourd'hui intégré comme resserrement monétaire, c'est un maximum. Parce qu'on voit que les indicateurs d'inflation sont en train de baisser. Donc, oui, les taux peuvent encore monter facialement de la part des banques centrales, mais on a déjà tout intégré, donc on ne peut avoir que des bonnes surprises à partir de ce moment-là. Et comme en plus, on a eu, au fur et à mesure de ces semaines, quelques indications quand même comme quoi la Chine pourrait progressivement, on voit que c'est compliqué, mais tout de même réouvrir un peu son économie et ne plus être aussi dur sur son approche zéro Covid. En fait, ça nous a fait deux moteurs très impressionnants qui ont permis effectivement de gagner, comme vous le disiez, plus de 15% hein, sur la plupart des indices. Aujourd'hui, on a besoin de relais de croissance supplémentaire, puisque la partie taux me semble à peu près intégrée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit quand même que les banquiers centraux ont beaucoup de méfiance sur la capacité des marchés à contrarier leur propre politique, c'est-à-dire à desserrer les conditions financières en faisant baisser les taux trop vite et donc ruent un peu dans les brancards en disant « mais non, nous on va être extrêmement durs, vous allez voir ce que vous allez voir ». Bon, personne n'y croit beaucoup, mais il y a quand même cette incertitude.
Surtout après l'affaire des fonds de pension britanniques, on a vu la Banque d'Angleterre devoir venir au secours, venir au secours du système financier.
Ouais. Exactement. Donc on a le sentiment que une partie en tout cas à court terme, je pense qu'à moyen terme effectivement le desserrement monétaire va se poursuivre et donc ça va être un moteur pour 2023 très, très intéressant, je pense qu'on pourra y revenir, mais à court terme on a besoin d'avoir plus d'informations sur effectivement la capacité de la Chine à se réouvrir et c'est aujourd'hui ce que joue directement les marchés dans cette séance, c'est-à-dire effectivement toute la partie matières premières, la partie énergie, la partie véritablement relance de la croissance par l'investissement chinois, par le crédit, qui permettrait d'avoir un moteur supplémentaire. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on va avoir. On va avoir également peut-être, et c'est pour ça que je pense que la fin d'année pourrait être intéressante, un moteur technique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas investis ou qui ont beaucoup de couverture encore aujourd'hui et qui vont devoir courir après le marché, si le rebond persiste, pour montrer à leurs clients finaux que les portefeuilles sont effectivement investis en fin d'année.
Qu'ils en étaient aussi.
Voilà, exactement. Et donc ça va faire peut-être un moteur intéressant. Donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir effectivement suffisamment de bonnes nouvelles en provenance de la Chine pour contrecarrer le contexte un peu compliqué économiquement où on voit qu'on a des indicateurs qui baissent, on le voit encore aujourd'hui avec l'indicateur du Conference Board. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'indicateur du Conference Board aux États-Unis, c'est que cet indicateur, il a à peu près 30 à 35% de sa composante qui est liée à l'emploi. Hein, c'est-à-dire, c'est le moral des ménages concernant la capacité à retrouver un emploi. Est-ce que c'est facile ou pas? C'est à peu près un tiers de cet indicateur. C'est la différence avec le Michigan. Le Michigan a quasiment pas de composante emploi. Le Conference Board a une grosse composante emploi. Donc ça veut probablement dire aussi, dans la partie attente du Conference Board qui a fortement déçu aujourd'hui, que le marché de l'emploi sur cette partie justement anticipation est probablement vraiment en train de se rééquilibrer aux États-Unis. C'est bon signe pour l'inflation. Il ne faut pas non plus qu'on aille vers un atterrissage trop violent. Voilà. Toujours rester dans la douceur, c'est ce que les marchés préfèrent.
On verra ce que nous dit le rapport sur l'emploi à suivre vendredi aux États-Unis. Mais enfin, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Que de fatalité en ce moment, quand même. La crise Covid en Chine.
Quel envolé, mon cher Guillaume.
Ralentissement. Envole-moi. Le ralentissement économique aux États-Unis ou encore en Europe, les resserrements monétaires inédits. Et pourtant, des marchés qui, dividendes réinvestis, sont, bon, j'exagère un peu, mais presque stables. En tout cas, en repli seulement, le CAC 40 dividendes réinvestis, en repli seulement sur l'année, 3%. Malgré tout, c'est vent contraire. Est-ce qu'on est monté quand même un peu trop haut ou au contraire, il y a des raisons de croire que ça pourrait se poursuivre, Vincent?
Je pense que les marchés sont piégés en fait. Ils ont investi largement sur les États-Unis parce que c'était la zone assez logique. Vous êtes sur le pays armé, vous êtes sur le pays avec du pétrole, avec du gaz, donc ça avait un sens d'aller se réfugier de l'autre côté de l'Atlantique. Sauf qu'en réalité, les choses se passent souvent de façon inverse à ce qu'on peut imaginer sur les marchés. Le dollar a très très bien tenu, même trop bien tenu pour beaucoup d'entreprises américaines, mais réciproquement, ça profite aux entreprises européennes. Je pense que de ce point de vue, beaucoup d'investisseurs ont été piégés. Dans les arguments que Wilfried a oubliés sur les deux derniers mois, c'est aussi les publications de résultats qui ont été de très bonne qualité une fois encore. Alors évidemment, on avait révisé un petit peu avant les publications, c'est l'exercice habituel, mais en fin de compte, on se retrouve quand même avec des publications qui ont été très solides. Et pour le moment, on ne voit pas les discours des dirigeants d'entreprises infléchir de façon significative. On est plutôt rassuré sur leur volonté et leur capacité à investir. On sait que les États, de toute façon, vont investir de façon massive sur la transition énergétique, sur la défense, sur la santé, sur le numérique. Il y a plein de développements et de projets qui sont incontournables et pressés. Donc, de toute façon, les États ne pouvant pas tout faire par eux-mêmes, il va falloir que les entreprises accompagnent et il va falloir que les conditions financières soient globalement raisonnablement confortables pour permettre à tout ce petit monde de s'installer et d'investir sur les prochaines années. Donc en clair, ça veut dire que les banques centrales, même si aujourd'hui elles font de la lutte contre l'inflation quelque chose d'urgent et elles le crient haut et fort, assez rapidement, elles vont devoir rétablir des conditions financières, je dirais, satisfaisante pour tout le monde.
Jusqu'à imaginer, alors Wilfried l'a sous-entendu, on pourra développer Wilfried dans un instant, mais jusqu'à imaginer carrément un retournement de stratégie monétaire, c'est-à-dire qu'on a eu un resserrement très net. Derrière, on maintiendra les taux au niveau ou on ira carrément vers une rebaisse des taux des banques centrales?
Je pense que les banques centrales nous le disent, et ça c'est lié à la Covid, elles sont data dépendantes. C'est-à-dire que la Covid, vous avez eu un effondrement des économies, et c'est comme le soit l'élastique, c'est-à-dire qu'il vous faut ensuite beaucoup de temps pour retrouver une forme d'équilibre. Et je pense que c'est ça en fait le problème, c'est que au niveau des statistiques économiques, aujourd'hui on reste perdu. Il va falloir prendre le temps d'observer à la fois la direction qui est prise par les statistiques économiques, et aussi les impacts des resserrements monétaires qui ont déjà été effectués, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a toujours un décalage dans le temps entre les resserrements et leur impact sur la sphère réelle. Donc il va falloir prendre du temps. Donc il est probable que les banques centrales établissent un palier, restent data dépendantes, autrement dit observent, et si effectivement comme moi je l'imagine, on aura par effet de base un repli rapide de l'inflation, elle pourrait effectivement envisager sur la fin de l'année prochaine de redesserrer de nouveau leur
conditions monétaires. Parce que c'est l'une des grandes questions. On passe peut-être le pic d'inflation en ce moment. Derrière, est-ce qu'on aura un faux plat descendant d'inflation ou est-ce qu'on aura une vraie redescente d'inflation? Vous pariez plutôt sur une vraie redescente.
Moi, je n'imagine pas, parce que je pense qu'on aura une reprise de l'investissement qui sera forte, je n'imagine pas une récession profonde. Donc je n'imagine pas non plus un effondrement de l'inflation. Je pense que par effet de base, ça va retomber, mais par contre les niveaux des prix ne vont pas eux forcément s'effondrer. L'inflation, c'est un effet de base d'une année sur une autre.
Est-ce que le marché, en ayant autant progressé de 15-20%, parie sur la fin des hausses de taux ou carrément parie d'ores et déjà sur une baisse à venir des taux en 2023?
Dans le marché, c'est très clair. Il y a déjà au moins deux baisses de taux qui sont intégrées. Donc pour le marché, c'est très net. En fait, la deuxième partie de 2023, il y aura deux baisses de taux. La question, c'est est-ce que le marché s'emballe ou pas? Et est-ce que c'est véritablement une bonne nouvelle ou pas? C'est les deux pans de la question. Moi, quand je vois les indicateurs avancés d'inflation, on a parlé des enquêtes d'opinion, mais quand on regarde par exemple les indicateurs plus durs, c'est-à-dire par exemple les prix à la production en Chine, quand on regarde par exemple le prix des loyers demandés aux États-Unis, quand on regarde le prix des voitures d'occasion au centre de Mannheim en Pennsylvanie, là on est déjà en baisse de prix très marquée. On est en déflation de ce point de vue-là. Et donc, il n'est pas du tout impossible que compte tenu, en plus de ce que disait Vincent à juste titre, des effets de base qu'on va avoir, en particulier durant le deuxième trimestre de l'année prochaine, on soit au deuxième semestre de l'année prochaine en train de parler sur ce plateau non pas des perspectives d'inflation, mais de comment contrer la déflation. C'est pas du tout impossible. Et à ce point de vue-là, ce qui est très compliqué pour les banques centrales, c'est qu'elles se sont engagées sur un chemin qui est un chemin de fortes restrictions, avec un argument que Jérôme Powell a développé lors de sa dernière conférence de presse, disant de toute façon ce n'est pas un problème si je resserre trop les conditions monétaires et si je vais trop loin, puisque si je stoppe trop l'économie, si je la plonge en récession, je sais comment la faire redémarrer. Ce qui est une déclaration, probablement une des plus fausses et qui restera dans l'histoire comme une des déclarations les plus terribles d'un banquier central des 100 dernières années, puisqu'on a bien vu dans les 10 dernières années que les banquiers centraux ne savent pas contrer la déflation et que seul, en fait, l'hélicoptère monnaie déversé directement par le budget américain directement sur le compte en banque des ménages a permis de sortir complètement de cette histoire de déflation et donc même d'enclencher une mécanique profondément inflationniste. Mais la mécanique inflationniste n'a été possible que parce que les autorités budgétaires l'ont décidé, pas parce que les autorités monétaires ont multiplié les quantitative easing, ont multiplié les injections liquidées sur le marché. En fait, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas d'appétence. Il n'y avait tout simplement pas de vitesse de circulation de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'avait pas de volonté d'investissement. Il n'y avait pas de volonté d'investissement, il n'y avait pas de traction dans l'économie. Les banques centrales sont incapables de créer de la traction dans l'économie. Et donc la question qui va se poser très rapidement aux banques centrales, c'est en fait, contrairement à leurs déclarations, il ne leur faut pas aller trop loin, parce qu'elles n'ont pas les capacités à elles toutes seules. Or, les États étant maintenant très endettés, ils vont avoir du mal à de nouveau enclencher le papier budgétaire pour relancer l'économie. Elles ne vont pas pouvoir relancer l'économie si l'économie s'arrête. Et donc, la question qui va se poser très vite, c'est quand est-ce que la pause va avoir lieu pour éviter justement d'avoir une baisse trop rapide ensuite qui va mettre à mal leur crédibilité. Moi, je serais profondément désolé que les banques centrales soient obligées justement très vite de retourner leur veste monétaire. Il vaut mieux effectivement avoir une phase de stabilité et éventuellement à la fin de l'année de dire allez, je calme un petit peu le jeu en faisant peut-être une ou deux baisses de taux plutôt que de dire d'ici six mois, oh là là, je me suis trompé, de la même façon qu'ils se sont trompés sur l'inflation, et de retourner leur veste. Ça, pour la stabilité monétaire, la stabilité financière du monde économique, ce serait quand même pas une bonne nouvelle. Donc il faut attendre tout ça. On est entre deux eaux là.
On croit plutôt au soft ou au hard landing, là, du côté américain et du côté européen ? Vincent ?
Moi, je suis plutôt soft landing, puisque mon idée, c'est que l'investissement des États et du coup des entreprises va redémarrer. Donc, je suis plutôt en version soft landing. Je pense que le fait que la Chine se déconfine assez probablement quand même en début d'année prochaine, ça sera là aussi plutôt un facteur de fluidité de circulation des biens d'équipement, des
mais
produits.
Ils vont tous tomber malades du coup. Ils pourront pas travailler. Ah,
mais non.
Ils ont zéro immunité. Ils sont confinés pendant deux ans là. Ils ont zéro immunité, les Chinois.
Il y a un plan de vaccination vaccinés. Là.
Vous avez vu pour les plus de 80 ans, d'accord.
Et on commence comme ça et on sait très bien.
C'est pas eux qui bossent.
N'oublions pas.
Quoique, on est en Chine, c'est vrai.
Voilà.
Ils ont déjà vacciné ceux qui travaillent.
Voilà.
Ils ont donné la priorité de ce côté-là. Donc moi, je suis pas certain que la question de la vaccination soit un si gros sujet. De toute façon, les statistiques de nombre de morts, nombre de cas. On saura jamais exactement ce qu'il en est.
Oui.
Ça sera difficile.
C'est comme les chiffres de la croissance en Chine.
Voilà, donc c'est d'accord. Pas très grave.
Mais je pense.
Wilfried.
En fait, il faut pas oublier que lors de la dernière visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine, les autorités chinoises, Xi Jinping lui-même, avaient parlé d'autoriser le vaccin BioNTech. Évidemment, il ne parlait pas du vaccin Pfizer, mon Dieu, c'est pas possible, pas un vaccin américain. Mais le vaccin allemand BioNTech pour les étrangers. C'était une ouverture quand même que j'ai trouvée particulièrement spectaculaire. Donc ça veut dire aussi qu'il est prêt à faire en sorte justement que le pragmatisme peut-être retrouve une voie en Chine. C'était la voie de la Chine, hein, historiquement, le pragmatisme, en tout cas depuis Deng Xiaoping. Depuis Xi Jinping, on l'avait un peu abandonné. Là, il va être nécessaire de retrouver un nouvel équilibre. On voit que c'est en train quand même de craquer un peu.
Hein. Mais si le marché price ça, il y a un risque de déception.
En fait, le marché aujourd'hui dit on va y aller très progressivement. Et donc, effectivement, il ne va pas falloir être déçu ni d'un côté ni de l'autre, parce que si on est trop violent dans la réouverture, qu'est-ce qu'on va avoir? On le voit aujourd'hui avec l'effet des matières premières, on va de nouveau avoir une traction inflationniste, ce qu'il faudrait surtout pas avoir, alors que on vient de passer les dernières minutes à dire que tout va bien parce qu'on va avoir probablement un desserrement monétaire. Là, effectivement, ce serait pas le cas du tout. Donc l'équilibre, toujours l'équilibre.
C'est comme en kitesurf, hein, si la voile est un millimètre un peu trop vers la droite, paf, vous faites complètement projeté et catapulté.
Ça, c'est votre côté sportif de l'extrême.
Oui, c'est le vent qui fait le sport en l'occurrence. Mais
deux petits commentaires. Le premier, c'est que j'ai du mal à imaginer que la Chine relance l'immobilier si elle n'a pas pour idée derrière de réouvrir son économie. Donc pour moi, c'est de toute façon une forme de, déjà de garantie comme quoi le plan est établi, il va falloir déconfiner. Le deuxième commentaire, c'est que dans la mesure où l'économie risque de refonctionner de façon un petit peu plus normale, les entreprises de façon un petit peu plus normale, il y a aussi un certain nombre de sources d'inflation potentielles qui pouvaient provenir de produits qui n'arrivaient pas à circuler normalement. On aura un peu d'inflation par les matières premières, mais peut-être qu'on en reperdra aussi un petit peu de l'autre côté par l'industrie.
Ce sera du dosage fin. On va poursuivre nos échanges dans un instant, juste après la pause. On se retrouve dans 2 minutes. On fera aussi un détour avec Sabrina Qualiozzi à Wall Street. Wall Street qui hésite énormément, comme les marchés européens. Enfin, on hésite du bon côté. Le CAC 40 progresse un tout petit peu. On se retrouve donc dans un instant. À tout de suite.
BFM Business. BFM Bourse. Le club.
À vos côtés jusqu'à 18h. Tiens, dans un instant, notre club se poursuivra avec nos coéquipiers, bien sûr, Wilfried Galland et Vincent Lequertier. N'oubliez pas aussi après 18h notre nouveau rendez-vous sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, LinkedIn et même notre chaîne YouTube BFM Business. Ce nouveau rendez-vous qu'on vous propose, le grand débrief de la séance avec Amaury de Tonquédec qui recevra un expert de marché. Vous pouvez l'interroger, cet expert, bien sûr, il tentera de vous répondre, lui envoyer vos questions, réagir, bien sûr, en live stream sur nos différentes plateformes en vous connectant direct ou encore en envoyant vos questions sur notre adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr. Rendez-vous donc tout à l'heure après 18h sur nos différentes plateformes BFM Business et BFM Bourse. Et puis depuis New York, elle nous attend impatiemment, Sabrina Qualiozzi. Rebonsoir Sabrina. Les indices américains ont finalement rebasculé dans le rouge là.
Oui, nous, c'est le mauvais côté, la baisse qui l'emporte sur ces marchés américains. Après avoir pas mal hésité, on a tenté de se reprendre après la baisse d'hier sur ces marchés américains. On a quand même un S&P 500 qui a enregistré sa plus forte baisse en pratiquement 3 semaines dans le sillage de la situation en Chine. On a essayé donc de se reprendre ce matin. Le Nasdaq avait réussi à progresser sur le début de cette séance. Donc, ce n'est plus le cas puisqu'on recule désormais, on accélère même ses pertes. Le Nasdaq perd pratiquement 0,8%, 10 963 points. Vous avez le S&P 500 qui cède 0,5%. Quant au Dow Jones, c'est un repli de 0,4% avec une statistique, l'indice de confiance des consommateurs qui a quand même jeté un froid, hein, puisqu'on est un plus bas depuis 4 mois de ce côté-là, 100,9 en novembre contre 102,2 sur le mois précédent. Parmi les autres éléments de cette séance, c'est assez calme aujourd'hui. Hein. On a le pétrole qui grimpe, plus 0,6% après avoir touché les plus bas de l'année sur la séance d'hier. Vous avez l'obligataire avec un 10 ans qui est à 3,71 actuellement. Marché action du Lyon qui recule avec une actualité entreprise qui est quand même relativement mince. On aura les trimestriels de Hewlett-Packard Entreprise ce soir après la clôture. On a United Health qui se montre prudent pour 2023 en anticipant un bénéfice inférieur aux attentes. Le titre est sous pression depuis ce matin l'ouverture. Vous avez quelques valeurs néanmoins qui se distinguent à la hausse avec notamment UPS qui profite d'une note de Deutsche Bank qui est passée à l'achat sur la valeur. UPS prend 1,6%. Les valeurs également chinoises qui sont bien orientées après avoir fortement reculé. Vous avez Alibaba qui grimpe de 5%. Bilibili qui est un groupe chinois, un groupe internet qui est coté ici aussi à Wall Street et qui a publié ses résultats trimestriels. C'est une perte moins lourde que prévu et un chiffre d'affaires qui a grimpé plus que prévu. Le titre est en hausse de 22%. Les valeurs pétrolières également, donc avec un baril de brut en hausse, plus 0,3% pour Exxon ou encore 1% de progression pour Chevron. Mais la tendance globale est négative, donc légèrement négative. Le Dow Jones perd 0,5%, le S&P 0,6% et le Nasdaq, Guillaume, a fait affiche une baisse de 0,85%.
Merci Sabrina, et vous nous accompagnez tout au long de cette séance américaine. À tout à l'heure sur BFM Business. On continue d'essayer d'anticiper la suite sur les marchés grâce à nos coéquipiers du club ce soir, Vincent Lequertier pour WeSave et Wilfried Galland pour Montpensier Finance. Oui, Bilibili est coté en bourse aux États-Unis plus 22%. Ça chatouille, hein, Bilibili. Ok, allez, on va poursuivre.
On la valide.
En termes d'allocation, qu'est-ce qu'il faut faire là? Après une hausse de 20% sur un certain nombre de grands indices, le DAX est repassé en bull market, c'est quand même incroyable, depuis la fin septembre, l'Eurostock 50 également, le CAC 40 presque. Où est-ce qu'il reste du potentiel pour la suite d'après vous, Vincent?
D'abord, vous pouvez jouer, si vous êtes comme moi, si vous pensez qu'il n'y a pas de récession marquée l'année prochaine, vous pouvez déjà confortablement vous installer sur des obligations d'entreprise. C'est une première piste. Ensuite, pour ce qui est des actions, moi j'ai tendance à dire que si l'hypothèse d'un pic d'inflation se confirme, et donc de politique monétaire moins dure, il faut se réintéresser en urgence aux valeurs de croissance, donc le Nasdaq.
Même si elles n'ont pas profité de la détente obligataire depuis deux mois.
Justement, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle, c'est une opportunité de plus. Non, je pense qu'il y a un cycle un petit peu spécifique au Nasdaq qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire que vous avez, pendant la Covid, vous avez eu une accélération de leur cycle économique que vous payez deux ans plus tard. Voilà, je pense que c'est ça en fait ce qu'on est en train de vivre, mais il faut garder en tête que les entreprises du secteur sont en train de faire des nettoyages assez drastiques des effectifs, surveiller leurs frais. Donc la rentabilité, on va la retrouver. La croissance, je pense qu'elle n'est pas perdue définitivement, surtout si vous avez de nouveau de l'investissement qui reprend. Donc pour moi, le Nasdaq reste une bonne piste d'investissement. En Europe, j'ai tendance à rester sur le DAX. Sur le DAX, parce que vous avez eu une année compliquée, parce que le client chinois était confiné et le fournisseur énergétique russe provoquait une flambée des coûts ou une difficulté à produire. Je pense que des deux côtés, ça devrait s'apaiser l'année prochaine.
Donc sur le fond énergétique aussi.
Oui, je pense. Vous organisez quand même un certain nombre de
circuits. On nous parle de l'hiver prochain, pas celui de cette année, mais de l'an prochain, comme étant peut-être encore plus à risque.
On va déjà jouer les six premiers mois de l'année avant de s'occuper de la fin de l'année prochaine. Et il y a quand même des circuits énergétiques parallèles qui s'organisent au fur et à mesure. Donc non, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Et le cas de l'Ukraine n'est pas non plus forcément enterré définitivement. On peut peut-être espérer un jour que ça se calme.
Bon, avec des si. Okay. Non, mais ça fait plaisir, une forme d'optimisme quand même pour la suite et sur le potentiel des marchés. Comment est-ce que vous voyez l'allocation idéale pour la suite, Wilfried?
En fait, pour rebondir sur ce que disait Vincent, je pense que le facteur majeur qui s'ouvre devant nous, c'est le retour du rendement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aujourd'hui une classe d'actifs obligataires qui procure de nouveau du rendement. Alors certains peuvent dire c'est pas encore un rendement réel positif, mais on a maintenant un rendement nominal très largement positif. On peut avoir sur des obligations de qualité, on peut avoir du 4-5% de rendement. Ça faisait quand même très longtemps que c'était pas arrivé.
C'est la nouvelle alternative quand même, le marché obligataire, les fonds obligataires, tout le monde nous en parle.
Et en tout cas, moi il y a une classe d'actifs qui reprend, je pense, beaucoup d'intérêt par rapport à ça. C'est la classe des obligations convertibles. Alors c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui peut être assez technique, mais qui est une façon en fait, en particulier pour le secteur dont parlait Vincent, le secteur technologique, les valeurs d'hypercroissance, se finance beaucoup par des obligations convertibles, et c'est une façon en fait d'être dans ce secteur-là avec ce qui avait totalement disparu, c'est-à-dire un plancher obligataire. Jusqu'à présent, les obligations convertibles, en fait, misaient sur effectivement les écarts de rendement, la volatilité, le marché action, mais il n'y avait plus de moteur véritablement de taux qui existait. Là, le moteur taux existe de nouveau. Sur une obligation convertible, on est payé pour attendre. On est payé pour attendre une opération. Donc ça change quand même profondément les choses. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on a beaucoup intégré de risques sur le marché européen par rapport au marché américain. On sait que le marché américain, c'est toujours le marché leader, mais aujourd'hui, en termes de moyenne de valorisation, on est entre 15 et 20% sous les moyennes historiques. En Europe, on est à peu près à la valorisation historique sur les moyennes sur les marchés américains.
Et ce, malgré la surperf européenne depuis deux mois. On n'a toujours pas rattrapé ce retard.
Voilà, on n'a toujours pas rattrapé ce retard. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a sur les marchés européens des opportunités que je trouve intéressantes. Après, il faut se garder, je pense, d'avoir des approches sectorielles qui sont trop marquées. Je pense que autant effectivement les valeurs de croissance peuvent bien performer, mais moi je serais par exemple pas à l'écart du secteur énergétique aujourd'hui, parce qu'on voit qu'on a quand même une grande pression de ce point de vue-là. Et puis si on avait un accident géopolitique, on sait que dans ce cas-là, les valeurs pétrolières sont des valeurs qui peuvent sauver une partie de portefeuille de performance.
Dernière question, on n'arrête plus l'ISR, on n'arrête plus l'innovation dans l'investissement responsable. Euronext lance deux indices Equigender, deux indices cotant les entreprises affichant la meilleure égalité homme-femme dans leur pratique, dans leur gouvernance, dans leur conseil d'administration, etc. etc. C'est bien ou ça donne une touche un peu trop marketing à l'ISR?
Moi, je trouve que c'est intéressant parce que un des inconvénients des labels ESG qu'on a aujourd'hui, c'est que ils veulent tout faire. Donc, c'est très intéressant. Mais ils veulent être à la fois sur la partie environnement, la partie sociale, la partie gouvernance. Et on sait que pour une entreprise, c'est très compliqué d'être sur ces trois-là. Et là, on est en train d'avoir une approche très spécifique. Ça, je trouve ça intéressant de serrer un peu les choses. Alors, ça se fait par des indices. C'est toujours, au début, ça se fait toujours par des indices. De dire, si vous voulez quelque chose qui est sur la partie, effectivement, gouvernance, où vous avez une gouvernance qui est equigender, homme-femme, et vous attachez de l'importance à ce critère-là, vous avez un outil pour ce critère. Si vous voulez par exemple un autre critère sur la partie écologie, décarbonation, vous en avez d'autres. Ça me paraît intéressant.
Il y a déjà des fonds pour ça.
Oui, mais en fait l'essentiel des fonds, avec des labellisations qui sont générales et qui en fait contraignent beaucoup. On sait qu'on est très contraints, nous, en termes de gestion. Et là, effectivement, ça donne peut-être d'autres possibilités. Ça ouvre des perspectives que je trouve intéressantes.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club, nos deux coéquipiers, Vincent Lequartier, responsable de la location d'actifs de WeSave. Vous m'avez demandé de terminer à 17h35. Il est 35 et 59 secondes.
Bravo.
Wilfried. Vous êtes
Bravo.
Libre.
Wilfried, merci beaucoup.
Directeur et stratégiste de Montpensier Finance. Dans un instant, on fera un saut à la Tour Euronext. On va rejoindre sur place Étienne Braque pour la clôture. À tout de suite. La clôture sur les marchés européens. Étienne Braque nous attend sur BFM Business en direct depuis la Tour Euronext. Étienne, le CAC 40 termine très indécis cette séance.
Oui, il termine parfaitement stable. Hein. 0,06% de hausse pour le CAC 40. Ça représente 3 points. 6668 points après une petite baisse de 0,37% hier. Séance qui était bien orientée dans le milieu d'après-midi. Et puis ce matin également dans le sillage de la Chine. Après donc que Xi Jinping et son gouvernement ont tenté de rassurer avec de nouvelles mesures suite aux confrontations que l'on a pu voir ces derniers jours. Ça fait remonter les matières premières. Mais désormais, vous avez un baril de Brent qui revient très légèrement en baisse, moins 0,1%, qui repasse sous les 84$. Mais ça a quand même permis à Total Energy de gagner plus de 2% ce soir à la clôture. Vous avez Airbus également qui perdait 5% hier, qui regagne 1,7% à 109€. Et puis à l'inverse, secteur technologique qui ferme la marche aujourd'hui. Worldline, Capgemini ou encore Dassault Systèmes signent les plus trois fortes hausses du CAC 40, des baisses supérieures à 2%. Et puis à noter également sur le front des taux, une accalmie du côté de l'Allemagne, moins 8 points de base pour le 10 ans à 1,91 après des chiffres sur l'inflation qui sont ressortis légèrement mieux que prévu, même si on est toujours sur une inflation à supérieure à 10%. Le CAC 40 donc parfaitement stable ce soir au fixing, toujours au-delà des 6600, 6668 points.
Merci Étienne, et vous nous accompagnez sur BFM Business tout au long de cette soirée. À tout à l'heure, on va débriefer cette séance dans un instant, juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Avec ce soir Pierre Bouchny pour Kepler, il vient tout juste de nous rejoindre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Bienvenue, on va débriefer ensemble cette séance. Et puis n'oubliez pas, vous qui nous suivez, le grand débrief aussi sur nos différentes plateformes. Après 18h tout à l'heure, Amaury de Tonquédec désormais reçoit un expert de marché. Ce sera vous Pierre pour aller encore plus loin. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos commentaires aussi en live stream sur nos plateformes de diffusion de ce nouveau rendez-vous, le débrief. Ce sera pour, si vous nous suivez sur BFM Business, à travers la chaîne YouTube de BFM Business, ou encore notre feed LinkedIn. Et puis si vous nous suivez via les plateformes BFM Bourse, eh bien vous pourrez suivre ce live stream sur le fil Twitter ou encore le fil Facebook de BFM Bourse. Envoyez vos questions en direct bien sûr, ou encore à travers notre adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr. ce nouveau rendez-vous après 18h chaque soir désormais, que l'on vous propose un rendez-vous également d'interaction. Le CAC 40 ce soir Pierre a terminé quasi stable, 6668 points. J'ai cru que c'était 6666, je n'avais pas chaussé mes lunettes. Non, 6668. Quand même, on préserve toujours les gains des 8 dernières semaines. C'est assez incroyable. On gagne toujours près de 20% sur le CAC depuis fin septembre. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore de l'huile dans le moteur pour pour progresser en bourse?
On a eu pas mal de news positives hein, depuis 8 semaines. Hein. Vous avez eu une saison de résultats qui a été bonne. Où il y a eu un sentiment sur les taux qui s'est amélioré. On a eu des news sur l'inflation. Vous commentiez les chiffres de l'inflation allemande qui étaient plutôt favorables. Et je pense que ça va continuer probablement puisque en fait la composante énergie qui pèse à peu près 2 points, 2,5 points sur l'inflation, va s'aplatir à partir de la fin d'année. Et donc, je pense que sur la partie inflation, on aura aussi probablement des choses qui vont aller dans le bon sens. Mmh. Et puis, des politiques monétaires qui semblent, au moins du côté de la Fed, aussi rentrer avec un momentum un petit peu plus favorable pour les marchés.
Donc, peut-être des raisons d'espérer, surtout si la Chine finit par assouplir sa stratégie zéro Covid. Et tout à l'heure, Vincent Lequartier, qui nous accompagnait pour WeSave, nous disait le fait que la Chine annonce des mesures de soutien à l'immobilier, ça préfigure sans doute une ouverture de l'économie, on ne va pas soutenir l'immobilier si on continue de confiner les gens. Et on ne va pas soutenir les... Voilà, donc c'est l'idée.
Ça va être du bon sens.
Voilà, et ce bon sens, les marchés l'achètent. Il y a un certain espoir autour de la Chine. En termes d'allocation, quels sont les secteurs ou les profils de valeurs qui pourraient éventuellement contribuer à une poursuite à la hausse des marchés?
Alors, il y a comme une thématique aujourd'hui qui recèle toujours un petit peu d'incertitude, c'est celle des évolutions de résultats, de la croissance des profits sur 2023, qui est une question sur laquelle aujourd'hui on a commencé à mettre dans nos estimations des révisions à la baisse compte tenu de ce que à la fois les sociétés nous disent, mais ce qu'on entrevoit en termes de contexte macroéconomique. Et s'il y a un facteur de risque ou un facteur de soutien, je pense qu'il viendra plutôt de la microéconomie maintenant plutôt que de la macroéconomie. Donc quand on a dit ça, les secteurs qui vont, à mon avis, plutôt profiter, en tous les cas si on est toujours dans un contexte de hausse et de sentiments positifs, ce sont les secteurs un petit peu cycliques. Hein. Donc la partie tech, si on se calme sur les anticipations de taux, clairement c'est le secteur qui a beaucoup souffert de cette thématique des taux d'intérêt. Ils devraient en profiter, et je pense en particulier aux semi-conducteurs qui sont plutôt early cyclical, donc ils vont anticiper les cycles, qui ont beaucoup baissé en termes de valorisation et qui aujourd'hui sont sur des niveaux qui sont des points bas de valorisation.
Bon, première idée.
Oui.
Il y en a d'autres ?
Oui, il y en a d'autres. Je pense que le secteur de la consommation, globalement, et de la distribution peut être aussi une idée d'investissement dans une thématique de ralentissement de l'inflation et de pression sur les prix qui pourraient un peu se calmer. Et puis le troisième secteur...
C'est très optimiste sur l'inflation, quand même.
Ça devrait normalement ralentir.
Vous estimez que le pic est passé, mais qu'on aurait non pas un faux plat descendant, mais peut-être une baisse assez significative.
Alors plutôt un faux plat un peu descendant, mais pas. Je ne pense pas qu'on ait une marge d'escalier qui soit significative, mais en tout cas, ça caperait un petit peu, si vous voulez, cette thématique de capacité à passer des hausses de prix pour maintenir les marges. Et le troisième secteur auquel je pense, c'est celui de la banque, qui est un secteur compliqué, très régulé, qui a des problèmes un peu fondamentaux, mais néanmoins, les banques, c'est deux choses. C'est une exposition au cycle, donc c'est effectivement ça, une thématique un peu négative dans la perspective de 2023, mais c'est aussi une thématique de taux, et avec des taux courts qui montent et des taux longs qui s'assagissent, donc qui quelque part resolvabilisent un petit peu les clients des banques, on peut avoir de bonnes surprises sur le secteur des banques.
Bon, la thématique énergie, c'est celle qui a porté cette séance aujourd'hui, énergie, métaux, matières premières, mines, ArcelorMittal a gagné 3%, Eramet dans les mines a gagné 4,5%, Aperam 3,5%, Total Energy, deuxième plus forte hausse du CAC, grâce à un rebond des cours du pétrole, plus 2%. Cette thématique énergie, est-ce qu'il est tard, d'après vous, pour s'y intéresser quand on est investisseur, ou est-ce qu'elle garde du potentiel? Parce que la Chine pourrait éventuellement rouvrir, ce qui ferait pression sur les besoins en énergie, parce que la guerre en Ukraine aussi se poursuit.
Alors, le point clé, effectivement, c'est ce qu'on va anticiper sur la Chine, et la demande de pétrole qui sera afférente à un scénario soit de maintien d'une situation un peu confinée, ou de redémarrage, de réouverture de l'économie chinoise, hein, c'est à peu près 2 millions de barils. Il y a des thématiques positives. Le secteur aérien continuera à être un trigger positif pour la consommation de pétrole. Donc je pense qu'on devrait avoir de bonnes surprises sur les chiffres du secteur de l'énergie dans sa globalité. Et aujourd'hui, le marché, notamment sur les grandes sociétés pétrolières, n'anticipe pas, ou en tout cas ne valorise pas des chiffres 2023 et 2024 qui pourraient être bons. Donc nous, on a un scénario pétrole à $90 pour l'année prochaine. achète, on est relativement confort là-dessus.
Et vous n'avez pas cité la tech parmi les thématiques prometteuses, alors que
si
vous l'avez cité.
Oui, absolument.
Vous l'avez cité, j'ai pas été assez attentif. Ouais. Parce que détente obligataire, parce qu'on arrivait sur le pivot des banques
centraux. C'est le secteur qui a souffert en début d'année du fait de la hausse des taux. Et vous avez un sous-secteur dans la tech qui nous semble aujourd'hui intéressant, c'est celui des semi-conducteurs, parce qu'il a beaucoup d'irrité en termes de valorisation. On est sur des points bas, je dirais historiques, avec des niveaux de PE à 12 mois qui sont aux alentours de 10 fois. Donc ça nous semble aujourd'hui le secteur par lequel on devrait re-rentrer sur le segment de la tech.
Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut se dire qu'après une hausse en ligne droite de 15-20% sur les indices européens, une correction est néanmoins possible et donc il sera intéressant de voir dans cette correction quelles valeurs qui ont porté la hausse résisteraient à la correction? Est-ce que si certaines valeurs qui ont porté la hausse des marchés résistent à des prises de bénéfices, ce sera le signe qu'on pourra compter sur elles quand on reviendra sur un vrai cycle haussier?
Ce qui est sûr, c'est que le marché va se rééquilibrer en termes de thématiques porteuses. Et donc les segments ou les secteurs qui ont porté le marché vont sans doute s'élargir si le scénario macroéconomique que j'évoquais tout à l'heure se réalise. Donc on aura un marché qui sera plus équilibré. Et effectivement, la question, et c'est celle qui est en ligne avec ce que je vous disais sur les anticipations de résultats, c'est plutôt les secteurs cycliques qui ont tiré le marché sur les 4 ou 6 dernières semaines. Et donc la question des secteurs cycliques, c'est de savoir si aujourd'hui on a la bonne vision en termes d'anticipation de résultats ou pas.
Parmi les valeurs qui sont distinguées cette fois, à la baisse, on rappelle, le CAC 40 est resté quasi stable aujourd'hui. En repli, on a vu Worldline reculer de plus de 3%, lanterne rouge du CAC 40, avec un certain nombre de valeurs de croissance, en l'occurrence, Dassault Systèmes, par exemple, a perdu un peu plus de 2%. Et puis Alain Pitous, qui nous accompagne régulièrement, Economic Advisor sur les thématiques socialement responsables. Alain Pitous formulait tout à l'heure une recommandation à l'achat sur le titre Sartorius Stedim. En tout cas, lui est à l'achat sur cette valeur, qui aujourd'hui, néanmoins, clôture en repli de 4,6%. Il nous expliquait tout à l'heure que c'était un possible point d'entrée pour les investisseurs sur ce titre Sartorius Stedim. Une autre valeur s'est distinguée à la baisse, ALD. On est dans la location automobile de longue durée. Pierre, ALD lance une augmentation de capital. Le titre a perdu un peu plus d'1% en clôture.
Oui, donc c'est pas grand-chose, mais effectivement, cette augmentation de capital, en fait, c'est une partie du financement de l'acquisition de LeasePlan. C'est une opération qui a été annoncée en début d'année, en janvier de cette année, donc qui arrive dans sa phase concrète. Et donc, c'est une acquisition qui est d'environ 4,5 milliards d'euros. Donc de sortie de cash financée à la fois par l'utilisation du cash d'ALD, par une augmentation de capital ouverte au public avec droit de souscription et par une augmentation de capital qui sera réservée aux actionnaires de LeasePlan qui auront in fine à peu près un tiers du capital. Donc ça va créer un leader mondial dans ce secteur puisqu'on fusionne le numéro 2 et 3 si mes souvenirs sont bons. Ce sera un des triggers importants des résultats de la Société Générale dans les années à venir puisque cette division corporate services représentera à peu près un tiers des résultats de la Société Générale. Et aujourd'hui, il y a une dynamique particulière sur ce secteur. C'est la bonne tenue de la valorisation des voitures d'occasion en tous les cas, ça a tiré les résultats en 2021. Ça les a tirés encore plus fort en 2022. Et la question, c'est de savoir quelle est la vitesse d'atterrissage de cette contribution de résultats de la revente des véhicules d'occasion au résultat d'ALD du futur ensemble ALD LeasePlan.
ALD, augmentation capital, donc pour financer sa fusion avec le néerlandais que vous avez cité, LeasePlan, et ce titre, ALD, qui termine en repli d'1,5%. Une valeur pour la suite. Une valeur dont vous vous dites, Pierre, pour nos auditeurs et téléspectateurs, que celle-là, il va vraiment falloir la suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. S'il fallait n'en retenir qu'une, quelle serait-elle ?
Écoutez, je penserais à M6. Alors, ça a déjà beaucoup monté, puisqu'on a fait à peu près 30% l'espace de 6 semaines. Néanmoins, ça reste une valeur pas chère, en tout cas très, très loin de ses niveaux historiques en termes de valorisation. C'est une valeur exposée à l'environnement, aux investissements publicitaires. Donc, 2023 sera une année difficile. Je pense que le marché a fait son travail et aujourd'hui anticipé une baisse des recettes publicitaires de l'ordre de 5% sur 2023. Et néanmoins, on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement bas. On doit être aux alentours de 6 fois les résultats. Donc, très loin des références historiques. Je ne sais pas si la thématique spéculative, puisque c'est ça qui avait aussi porté le titre jusqu'à l'été dernier, repartira. Bon, en tous les cas, Bertelsmann, l'actionnaire de référence, est vendeur. Il ne l'était pas dans les conditions qui vont être proposées après l'échec de la fusion avec TF1. Et aujourd'hui, il nous semble que le niveau de valorisation et les multiples de valorisation prémunissent d'un momentum de business qui ne sera pas très bon, mais qui nous semble aujourd'hui largement intégré par les cours.
M6 a bien progressé aujourd'hui.
Hein. Oui.
Dans une séance amorphe, oui. À Tône, plus 2,5% M6, 13,50€, et donc c'est à vos yeux l'une des
valeurs. Des idées qu'on va chercher, si les marchés doivent continuer à monter, je pense qu'on va regarder les sociétés qui restent pas très chères et sur lesquelles le marché a fait son travail de bonne anticipation des perspectives d'activité à 12-24 mois.
Pierre Bouchny pour Kepler nous accompagner et va continuer de nous accompagner puisque le débrief se poursuit sur nos différentes plateformes en live stream dans un instant sur notre chaîne YouTube BFM Business, notre fil LinkedIn BFM Business, et puis si vous suivez via notre plateforme BFM Bourse, vous pourrez suivre aussi ce live stream dans un instant, le grand débrief animé par Amaury de Tonquédec sur le fil Twitter ou encore le fil Facebook de BFM Bourse. Pierre, donc, on vous retrouve dans un instant.
A tout de suite.
A tout de suite, et n'hésitez pas à lui envoyer vos questions, hein, bien sûr, en réagissant, en commentant en direct au cœur du live stream ou encore en nous envoyant vos interrogations, vos questions, vos remarques sur notre site à travers notre adresse mail BFM Bourse, bfmbourse@bfmbusiness.fr. Dans un instant, donc, ce débrief à suivre sur nos différentes plateformes et qu'Amaury va animer. Le CAC 40, on vous le rappelle, a légèrement progressé. Allez, on a sorti les rames, mais on a quand même progressé. Plus 0,06% en clôture, 6668 points. Ce soir, sur l'indice CAC 40, ArcelorMittal plus forte hausse, Worldline au contraire plus fort repli, un repli d'un peu plus de 3% pour Worldline. Et puis, on vous rappelle aussi la valeur ajoutée du jour. Ce sont les spécialistes de Métis Gestion qui recommandent à l'achat le titre Rocktool. On est dans l'univers de la transition énergétique. Vous pouvez retrouver le replay de cette recommandation à l'achat sur notre site BFM Bourse. Dans un instant, vous retrouverez Guillaume Paul et Audrey Tcherkov pour Good Evening Business. Ils vous accompagneront jusqu'à 20h sur BFM Business. Nous, on se retrouvera demain, bien sûr, dès 15h pour un nouvel épisode de BFM Bourse. Plutôt, vous retrouverez Étienne Braque. Je vous retrouverai pour ma part jeudi. Bonne soirée à tous et rendez-vous donc demain en direct et dans un instant sur nos plateformes de streaming pour le live stream, la suite, le débrief de cette séance assurée par Amaury de Tonquédec. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.